Bonjour. Aujourd'hui, quatrième de nos rediffusions de l'été, une émission du 18 avril intitulée « Les Justes en France, le revers de la haine ».
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Les enfants, calmez-vous, écoutez-moi. Ils ont arrêté le père Jean. Il semble que nous ayons été dénoncés.
Bonnet.
Bonnet, Dupré, Lafarge sont israélites. Le père Jean les avait recueillis parce que leur vie était en danger. Vous allez au dortoir et faire vos valises rapidement et dans le calme. Hein, je compte sur vous.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Je suis contente de vous retrouver, mes chers auditeurs, et d'accueillir ce matin Patrick Cabanel, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Toulouse Le Mirail, pour traiter avec lui d'un sujet qui est de vaste portée, en termes moraux, en termes civiques, en termes religieux aussi bien. Un sujet qu'il a traité dans plusieurs écrits importants, Entendez les justes en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Le titre de juste parmi les nations est la plus haute distinction civile décernée par l'État d'Israël à partir de 1963, décernée à des personnes non juives qui, au péril de leur vie et sans contrepartie, ont sauvé au moins un juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'un jeune malien nommé Lassana Batili, au moment de l'attaque meurtrière de l'hypercachère de la porte de Vincennes le 9 janvier dernier, lorsque Lassana Batili a sauvé plusieurs clients juifs en les dissimulant dans les sous-sols de cette supérette où il était magasinier, il n'a pas seulement acquis en récompense la nationalité française. Il s'est vu aussi salué, notamment par le président du consistoire israélite de Nice, souhaitant qu'il soit un jour reconnu à son tour comme juste parmi les nations. Nous avions, voici peu, consacré une émission aux leaders de l'antisémitisme en France au XIXe siècle. Celle que je vous propose ce matin sera pour un indispensable équilibre consacré en somme au revers de la haine.
Entre 1941 et 1945, il y eut une soixantaine d'enfants cachés à Chavagnes-en-Paillée. C'est l'un d'eux qui a révélé l'histoire du village. David Fuchs a demandé et obtenu la médaille des Justes pour Marie-Élise, 86 ans, chez qui il a trouvé refuge après l'arrestation et la déportation de ses parents le 12 juin 1942.
Moi, ce que ça me fait, c'est que je suis heureux que des Français voient d'autres Français dans ce qu'ils ont pu faire de mieux. Surtout que je suis en plus heureux, et je le redis, que maintenant j'habite tout à côté de Monsieur Papon, mais lui est en prison et moi je suis chez moi. Et ça, le contraste est pour moi important et fondamental.
À ce jour, 1800 justes ont été récompensés en France. Leur nom figure sur le mur de Yad Vashem à Jérusalem. Celui de Marie-Élise y sera bientôt gravé, mais l'intéressé prend tout cela avec beaucoup de modestie.
Je ne méritais pas tout ça, non. Je trouve qu'ils en ont fait trop. Bon, ce n'est pas un geste héroïque que j'ai fait, non. C'était une chose banale. Les petits juifs, ben, ils n'avaient plus de parents, ils n'avaient plus rien, du moins. J'avais de la place.
Reste cette question, pourquoi Chavagnes-en-Paillée? Là-dessus, personne n'a de réponse. Rodolphe Landais, Radio France Loire-Océan pour France Inter.
Patrick Cabanel, bonjour.
Bonjour.
Je viens de vous proposer un reportage à Chavagnes-en-Paillée, c'est en Vendée, où Marie-Élise Roger vient de recevoir la médaille des Justes. C'est un reportage qui avait été diffusé le 14 novembre 1999 sur France Inter. Elle parle de 1800 justes, le chiffre a beaucoup augmenté depuis.
Oui, il est maintenant pour la France de 3850 environ, et je pense qu'on arrivera sans doute aux 4000, puisque c'est une liste qui n'est pas encore close. Elle est ouverte, cette liste des justes, y compris pour toute l'Europe, dès lors qu'il y aura toujours encore des témoignages recevables, et aujourd'hui ce sont essentiellement les derniers témoignages, ceux des enfants cachés des années 40, qui témoignent encore, donc les enfants juifs cachés, ce qui fait que cette liste est appelée à s'accroître encore pendant quelques années.
Rappelez-nous ce que c'est que Yad Vashem.
C'est une institution qui a été fondée par une loi israélienne en 1953 et qui est la grande institution à la fois mémoriale, musée, histoire de la Shoah.
Ça veut dire mémorial des martyrs.
C'est-à-dire le monument et le nom. C'est vraiment l'institution pour faire mémoire, y compris d'un point de vue scientifique et pas seulement religieuse, de la Shoah dans son ensemble. Et puis il y a dans cet ensemble Yad Vashem, il y a un département des justes qui a surtout pris son essor à partir, on l'avait rappelé, du 1963, avec environ 25 000 Européens qui ont reçu ce titre de juste sur l'ensemble de l'Europe, depuis la Russie jusqu'à l'Albanie, en passant par la France et même l'Espagne ou l'Angleterre, dès lors qu'un certain nombre de ces citoyens étaient actifs dans l'Europe de l'occupation et dans l'Europe de la Shoah.
Si on considère ce nombre, on constate que c'est la Pologne qui recèle le plus de justes parmi les nations dans ce palmarès du courage. Ensuite vient la Hollande, 5200, et puis la France en troisième.
Ce sont les trois principaux pays, le quatrième c'est l'Ukraine, mais cette statistique ne signifie pas grand chose. Il faudrait évidemment, pour mesurer exactement les choses, rapporter le nombre de justes à la population globale et aussi au nombre de juifs présents sur place. Donc ce sont des contingents qui n'ont pas de vraie signification sociologique ou statistique, puisque c'est fonction donc du nombre de juifs rescapés, puisque pour apporter un témoignage, il faut avoir échappé à la Shoah. Donc ce sont des indications plus que des statistiques vraiment significatives.
En revanche, il y a des chiffres qui sont de grande importance. Je veux dire le pourcentage de juifs français par rapport à d'autres pays qui ont été déportés et ceux qui ont échappé à la mort.
La France, et ça a été remarqué de longue date, en particulier le premier qui l'a remarqué, c'est Serge Klarsfeld. La France est l'un des États dans lesquels le nombre de juifs sauvés est le plus fort. 75% de sauvetage des juifs, et c'est l'un des plus beaux chiffres de l'ensemble de l'Europe occupée.
D'ailleurs, il est intéressant de noter que Serge Klarsfeld, dont nous lisons actuellement les mémoires signées avec sa femme Beate, est un des premiers à avoir pris parti contre une certaine histoire excessivement culpabilisante à ses yeux.
Voilà, parce que la France, il y a une tradition antisémite, l'émission précédente l'a rappelé, il y a eu un État et un droit antisémite, il y a eu une occupation totale du territoire, et pourtant, 75%, donc 3 sur 4, des Juifs, soit de France, soit étrangers, réfugiés en France, ont été sauvés. La proportion est encore plus forte pour les enfants, et je trouve que c'est un très beau chiffre, c'est 86% des enfants juifs qui ont été sauvés. C'est un très beau chiffre, surtout si on le compare avec des pays voisins de la France. La France a beaucoup mieux sauvé les Juifs présents sur son sol que, par exemple, la Belgique et surtout la Hollande.
On évalue à combien le nombre de Juifs en France en 1940?
On l'évalue entre 320 et 350 000. Il y a donc les Juifs de France et puis il y a beaucoup de Juifs immigrés à partir de 1933 pour des raisons évidentes. Des Juifs qui avaient fui l'Allemagne, ensuite l'Autriche, la Tchécoslovaquie lorsque ces pays ont disparu. Et puis dans l'exode du printemps 1940, dans le flot de l'exode, il y a les Juifs de la Hollande, de la Belgique, du Luxembourg, de Paris qui fuient vers le sud, ce qui fait ce chiffre de 330 000 à peu près en France.
Trois groupes majeurs.
Oui. Les Juifs français, qui s'appelaient à l'époque israélites, la grande vague d'immigration de ce judaïsme qui fuyait les persécutions et l'antisémitisme européen, qu'il soit polonais, hongrois et de l'Allemagne nazie, et puis la dernière vague, ceux qui fuyaient donc l'urgence de la défaite de la campagne 1940.
Alors, une fois qu'on a posé ces données, il faut tâcher d'éclairer ce que certains ont appelé une énigme française. Pourquoi tant de Juifs ont été sauvés par comparaison avec d'autres pays? Le livre que vient de publier Jacques Semelin, qui s'appelle « Persécution et entraide dans la France occupée », qui est un ouvrage important, je crois, pour qu'on puisse le dire, évoque beaucoup de cas particuliers, tout en proposant une synthèse.
Oui, c'est une très belle enquête, et qui va au-delà des justes. C'est-à-dire que les justes, c'est bientôt 4000 Français justes, ne suffisent évidemment pas à expliquer que 75% de ces 330 000 Juifs aient échappé à la Shoah. Beaucoup de raisons l'expliquent, et je crois qu'il faut le dire, la première raison qui explique ce sauvetage, c'est le sauvetage des Juifs par les Juifs eux-mêmes. Les Juifs ont tenté de prendre en main leur destin, chaque famille a tenté de se sauver elle-même, et puis il y a eu énormément de militants, de jeunes, notamment de très jeunes Juifs, garçons et filles, qui ont tenté, avec toute une série de réseaux, de filières, de sauver le plus possible, soit d'enfants, soit de Juifs. Et puis il y a les Justes, il y a aussi l'ensemble de la population française, parce que les Justes, ce n'est que la partie émergée. Pour un juste n'est jamais seul. Il est très difficile, sauf exception, quelques diplomates qui ont pu, seuls, en distribuant des visas, changer des destins.
Nous allons en parler.
Mais la plupart des actes de sauvetage sont des actes collectifs.
Donc chaque juste, en somme, parle pour plusieurs centaines.
Pour 10, pour 50, pour 100, quelquefois, parce que il y a ceux qui savent et qui ne disent rien, il y a ceux qui donnent un service, il y a des leaders du sauvetage. Donc c'est vraiment une entreprise collective.
Parmi les facteurs positifs, il y a peut-être une donnée simplement géographique. La nature du pays tel qu'il était à ce moment-là, dans ces années 1940 et suivantes.
Oui, je crois qu'il y a même plusieurs données géographiques très différentes. Il y a d'abord l'espace. La France est un pays relativement grand. C'est un pays qui est très rural. C'est un pays qui comporte du rural profond et des montagnes. Et il est plus facile de se sauver dans les lacis des moyennes montagnes que dans des grandes plaines. Seconde raison aussi, c'est la proximité de deux États, l'Espagne et la Suisse, qui sont dans l'affaire, qui se veulent neutres, et qui ont été surtout la Suisse. Il faut être clair, la Suisse a été vraiment la terre promise, en quelque sorte, terre promise qui s'est très vite refermée, hein, mais vers laquelle beaucoup de regards se sont tournés, beaucoup de Juifs ont été sauvés par le fait qu'il y avait cette Suisse limitrophe.
Est-ce qu'on peut dire aussi que Vichy, dans l'ignominie même de sa politique antisémite, n'a pas été, comme l'hitlérisme, génocidaire ?
L'antisémitisme de Vichy n'est pas génocidaire. Il est racial, il est vraiment racial. La définition que donne Vichy du juif, à l'époque on parlait au singulier, c'est sans dire long, c'est une définition proprement raciale, génétique, et non pas religieuse. C'est un antisémitisme politique, économique, social, mais il n'est pas génocidaire. Vichy voulait, sans jouer sur les mots, Vichy voulait la mort sociale et économique des juifs, pas la mort physique. En même temps, Vichy n'a pas hésité, surtout au début, Vichy n'a pas hésité à livrer aux nazis les contingents demandés par les nazis. Donc il y a une vraie collaboration objective à la Shoah, mais qui n'était pas une volonté explicite du régime de Vichy.
Il n'empêche que dès les débuts, l'occupation allemande a signifié un péril de mort pour les Juifs. Et vous évoquez il y a un instant un certain nombre de personnalités qui, d'entrée de jeu, dès les débuts, ont déployé ce qu'elles pouvaient avoir de générosité et d'énergie pour défendre les Juifs et leur permettre de partir, par l'Espagne en particulier ou par la Méditerranée. Il faut vraiment placer au tableau d'honneur de l'admiration rétrospective le consul de Portugal à Bordeaux et l'ambassadeur du Brésil à Paris.
Oui, c'est un peu le portrait d'un Wallenberg, c'est-à-dire que là, il y a, je dirais, des équivalents français. Donc c'est Sousa Mendes, le célèbre consul du Portugal à Bordeaux, c'est Sousa Dantas, l'ambassadeur du Brésil à Paris, puis très vite à Vichy, bien sûr, et qui, eux, pouvaient, y compris, ils l'ont fait contre leurs états respectifs. Hein, ils ont désobéi, comme hauts fonctionnaires, ils ont désobéi à leurs états respectifs, mais ils ont choisi, dans l'urgence, notamment de la débâcle de 1940, ils ont choisi de distribuer par centaines et même par milliers pour Sousa Mendes, des visas qui étaient tout simplement des passeports pour la liberté. Ils ont sauvé eux seuls, parce qu'ils avaient le pouvoir diplomatique, des centaines de Juifs, pas seulement des Juifs aussi, toutes sortes de réfugiés. Ensuite, bien sûr, ils ont été rappelés. Sousa Mendes a été rappelé au Portugal.
Et il avait d'ailleurs antidaté un certain nombre de visas après avoir reçu l'interdiction de les délivrer.
Voilà. Et puis, sa carrière a été brisée par sa générosité. Il n'a été réhabilité que extrêmement tardivement. Il y a toute une série de diplomates, hein, des Japonais, des Chinois, des Sud-Américains, des diplomates espagnols aussi, qui étaient actifs dans l'Europe occupée et qui ont vraiment, au premier plan, grâce à cette politique de visa, sauvé des centaines de gens. Ensuite, c'est devenu impossible et ce sont d'autres réseaux qui sont mis en place.
Il faut évoquer à ce propos la personnalité qui est devenue emblématique, celle de l'américain intellectuel de gauche, Varian Fry, qui joue un rôle essentiel pour sauver beaucoup de personnalités dans le sud de la France pendant la première période, lorsque la France est coupée en deux selon la ligne de démarcation. Écoutez cet entretien avec Dina Vierny, vous savez, c'était la muse de Mayol, qui a été à l'origine du très beau musée dans le 7e arrondissement à Paris, consacré à Mayol. Écoutons Dina Vierny.
Fry avait loué une maison qui s'appelait Herbel, à côté de Marseille, où il parquait toutes les personnes qu'il sauvait, les personnes importantes, hein, qu'il sauvait, et qu'il sauvait par la mer.
Alors, on va le rappeler, il y avait Chagall,
Max... Non, Chagall, non. Chagall n'est pas parti comme ça. Il a sauvé Chagall différemment. Et je m'en souviens très, très bien. Chagall a été pris dans une rafle à Marseille, et Fry l'a sauvé en venant le chercher.
Ah oui, donc il était très culotté.
Oui. Or, alors, Fry est non seulement été très culotté, mais c'était la 36e roue du carrosse du consulat américain de Marseille. C'est pas le consulat américain de Marseille qui a sauvé les gens, c'est Fry.
Oui, d'ailleurs...
Mais il avait une lettre, il est venu avec une lettre d'Eleanor Roosevelt, et de son nom qu'il fallait sauver. Et très peu d'argent, mais un petit peu d'argent quand même. Et Fry commence son affaire. Alors, il faut qu'il arrive à avoir des titres de voyage et surtout des entrées dans les pays. Et c'est quelquefois impossible. Il y avait par exemple un titre de voyage qui m'avait toujours fait hurler de rire. C'était aller en Chine. C'était écrit en chinois, comme personne ne lit le chinois. Il était écrit en chinois, ce passeport, surtout, ne permet pas d'entrer en Chine. Mais il était très courageux. Et il était capable de tout, il était merveilleux, ce gars-là. Physique, il n'avait pas le physique de l'emploi, hein. C'était un petit homme effacé. Hein.
Oui, qui sortait, ancien étudiant d'Harvard.
Oh, et c'était la merveille des merveilles.
Et il a permis de sauver quand même 4000 personnes.
Bah oui. Et il en aurait bien sauvé davantage. Moi aussi, j'aurais voulu en sauver davantage.
Oui, mais le gouvernement de Vichy l'a...
Bah, et lui et moi.
Oui.
Moi, ils m'ont arrêté et lui, il a...
Lui, ils l'ont ramené
dans
son pays.
Il a dû se faire la malle. Mais il s'est fait la malle avant qu'on m'arrête. Hein. On m'avait déjà arrêté, puis j'ai eu mon procès que j'ai gagné. Au bénéfice du doute, Mayol m'a pris un très grand avocat. Ben, même sous Vichy, on pouvait... Au bénéfice du doute...
Donc Mayol est vraiment votre père.
Ah finalement. Bah oui, ah bah ça de toutes les façons. Pas seulement Pygmalion, mais vraiment mon père.
Dina Vierny est interviewée ici par David Arthur. À propos de Varian Fry, c'est le 21 août 2006 sur France Culture. Patrick Cabanel, ce personnage mérite d'être évoqué longuement, d'être célébré.
C'est donc un humanitaire, il n'est pas diplomate. Hein. Il vient à Marseille avec une mission très précise.
En août seulement, en août 40.
Oui, il va rester quelques mois. Et il a une mission, si j'ose dire, qui est un peu cynique de la part des États-Unis d'Amérique. Et il a le droit de faire venir aux États-Unis 200 personnes, 200 juifs essentiellement, menacés par le nazisme. Mais il faut en fait qu'il sélectionne de grands artistes, grands écrivains, peintres, savants. Les États-Unis veulent accueillir une partie d'intelligentsia juive menacée de mort. Et Varian Fry le fera, mais son principal objectif sera d'outrepasser cette mission primitive et de sauver tout ce qui pourra l'être, y compris des gens de milieux beaucoup plus modestes, qui n'intéressaient pas spécialement les États-Unis et qu'il fera échapper en outrepassant totalement et en étant dans l'illégalité par rapport à Vichy et par rapport à son propre gouvernement américain, qui du reste obtiendra son renvoi en 41 aux États-Unis, qui sera une sanction, là encore, des États-Unis contre son propre envoyé.
Il se rebelle contre l'idée du tri, en somme, du filtre, qui était une grande question à l'époque.
N'accepte pas l'idée de sélectionner seulement les élites artistiques ou scientifiques.
Il reste que la liste des élites qu'il a contribué à sauver est impressionnante, rétrospectivement. Je vous en donne une idée, non seulement André Breton, mais André Masson, Max Ernst, Marcel Duchamp, Anna Arendt, Marc Chagall, Jacques Lipschitz, Heinrich Mann, Victor Serge, Claude Lévi-Strauss, excusez du peu, et le grand économiste américain, Albert Eichmann aussi.
Oui, l'idée c'était de faire échapper à l'emprise nazie une partie d'intelligence européenne, pas seulement, on le voit bien, pas seulement les juifs, aussi de grands écrivains considérés comme des adversaires politiques du nazisme.
Nous avons cité là des cas de héros individuels. Assez vite, des organisations se mettent en place, religieuses ou laïques d'ailleurs, qui contribuent à cet effort collectif pour sauver les juifs de France menacés d'extermination. Et on retrouve en particulier les protestants. Je rappelle, Patrick Cabanel, que vous êtes un historien majeur du protestantisme français.
Il y a beaucoup de protestants dans ces entreprises de sauvetage, ils ne sont pas les seuls, hein. On pourra revenir notamment sur le monde laïque et sur la corporation des hussards noirs de la République.
Oui, on y reviendra, aussi, hein. Oui, on y reviendra.
Et puis il y a aussi, il y a des évêques, il y a des congrégations religieuses. Donc c'est, certaines façons, la France des justes, c'est ce qui est d'ailleurs très réjouissant, c'est toute la France, ce sont les Frances, aussi bien la France catholique que la France laïque et maçonnique que la France protestante en l'occurrence. Et si on peut citer une entreprise, un réseau particulier, fondé par des protestants, au départ pas du tout pour sauver des juifs, mais pour venir en aide aux populations protestantes alsaciennes, qui en 1939, par la France entrant en guerre, avaient été donc envoyées à l'abri depuis ce qu'on pensait devoir être le front du côté alsacien dans le Limousin.
Vous pensez à la CIMAD.
Voilà, c'est la CIMAD qui au départ était du genre masculin, le comité intermouvement de jeunesse auprès des évacués protestants alsaciens dans le Limousin.
1939 donc.
Voilà, en 39, donc, il se crée, je dirais, dans une logique proprement intra-protestante, aider les Alsaciens. Et dès 1940, à l'automne 1940, quand il découvre le phénomène des camps de Vichy, les camps d'internement de Vichy dans la France non occupée, et quand il découvre qu'on entasse de plus en plus dans ces camps des réfugiés juifs étrangers, alors la CIMAD décide d'entrer dans les camps, parvient à entrer et accomplit un travail qu'on dirait aujourd'hui humanitaire. Aujourd'hui, on parlerait d'une ONG, d'un travail humanitaire pour aider matériellement et spirituellement les juifs internés. Et ensuite, plus tard, ces mêmes militants, mais ils ne sont pas seuls, il y en a d'autres, il y a notamment toutes les organisations juives, s'efforceront de sortir des camps légalement dans un premier temps un certain nombre d'enfants ou de vieillards pour les mettre dans des foyers connus par Vichy, mais où évidemment les rythmes de vie et les modes de vie étaient très différents de la cruauté et de la sous-alimentation régnant dans les camps. Et puis, lorsque les déportations vont commencer à l'été 42, alors ces mêmes associations vont basculer dans la clandestinité et dans l'aide illégale jusqu'à la fin de la guerre.
Au début, il s'agit de camps comme celui de Gurs, par exemple, près de la frontière espagnole, qui sont présentés comme pouvant légitimement être ouverts à une action humanitaire, à des femmes en particulier qui viennent voir comment on y traite les enfants.
Oui, Vichy a accepté l'entrée des organisations humanitaires, y compris juives. C'est l'époque où il y a encore, évidemment, un judaïsme légal en France.
Hein. On est en zone libre.
Voilà, on est en zone non occupée. Et il y a même, de la part de l'État de Vichy, il y a une forme de cynisme d'État dont les organisations humanitaires étaient conscientes. Vichy a laissé une partie de la charge matérielle, de la prise en charge, y compris psychologique, matérielle, alimentaire, intellectuelle et spirituelle. On a laissé une part de la charge à ces organisations humanitaires. Ça a rendu la vie dans les camps plus acceptable, y compris du point de vue de l'opinion. Et c'est dans un second temps que ces organisations, jusque-là tout à fait légalement acceptées, ont décidé de passer à des modes clandestins de sauvetage.
De ce point de vue-là, évidemment, l'invasion de la zone sud par les Allemands en novembre 1942 correspond à une coupure, à une césure importante. Mais dès avant, dans la zone occupée par les Allemands, on voit l'installation de camps de juifs étrangers, dont celui de Pithiviers est resté un exemple dramatique. Écoutez cet extrait de la radiodiffusion dite nationale, en fait c'est Radio Paris, sur l'organisation des camps de juifs étrangers, à propos du camp de Pithiviers.
La radiodiffusion nationale vous parle.
Bien que les juifs étrangers ne soient ici que depuis 48 heures, l'horaire du camp est déjà strictement établi. Le réveil a lieu à 6 heures. Et il se trouve à 7 heures en se rangeant en file le long du petit bâtiment de la cuisine, le café. Ensuite, à 11 heures, ils ont la soupe et à 18 heures également. Le couvre-feu est sonné à 21h30. De quoi se compose la soupe? Eh bien, mon Dieu, aujourd'hui, nous avons vu que c'était assez copieux. Il y avait une large soupe dans laquelle il y avait pas mal de légumes. Et ils auront en tout cas sûrement deux fois par semaine de la viande. Maintenant, il ne faut pas trop s'apitoyer, si vous le voulez, sur le sort de ces hommes. qui, en toute autre circonstance, il faut bien le dire, auraient déjà été depuis longtemps chassés de France et qui vivaient chez nous absolument comme des parasites honteux. C'était là vraiment le ramassis de tous les métèques échappés des ghettos d'Europe centrale et qui grouillaient comme une sorte de cour des miracles dans Paris, se livrant à leur buddy-gommerce et qui maintenant se trouvent rassemblés ici. Et je vous assure que c'est une mesure de salubrité publique qui a été prise enfin en France occupée. Nous allons maintenant quitter le camp de Pithiviers, si vous le voulez bien, et nous diriger vers le camp de Beaune-la-Rolande, qui est encore plus important.
Alors Patrick Cabanel, ce reportage est un ton d'époque, c'est ce qu'on peut dire ?
Oui, typique bien sûr l'antisémitisme d'époque, et ça permet de rappeler que...
Le buddy commerce, vous avez remarqué ?
Voilà, l'accent y est, c'est l'antisémitisme vulgaire de l'époque, mais aussi c'est l'antisémitisme d'État. C'est-à-dire que l'un des premiers gestes du régime de Vichy, là c'est pas les Allemands qui sont encore, c'est bien Vichy, en octobre 40, outre donc de mettre en place le statut des Juifs avec première définition raciale des Juifs, c'est d'autoriser l'ensemble des préfets, zone occupée, de procéder à l'internement administratif, sans motif, des Juifs étrangers. Donc se marie dans ce régime-là, se marie l'antisémitisme, la xénophobie, et les camps, aussi bien Pithiviers, Beaune-la-Rolande que Gurs, dont on vient de parler, le Ressé Bédou, les Milles, c'est la France des camps, se remplissent donc de Juifs étrangers sur simple décision arbitraire des préfets, et cela va durer jusqu'à 1942. Et le drame de cette décision d'octobre 40 de remplir les camps de Juifs étrangers, c'est qu'en 1942, au moment des premières déportations, lorsque les Allemands, si j'ose dire, passeront commande de milliers de Juifs pour la déportation, Vichy n'aura qu'à puiser dans ces camps qui se seront refermés comme des pièges sur ces hommes et ces femmes juifs étrangers.
C'est naturellement à partir de 1942, la grande rafle et l'accentuation de la chasse aux Juifs en France occupée d'abord, puis dans la France entière. C'est là qu'un certain nombre de voix s'élèvent qui mérite d'être évoqué. Nous parlions des protestants, il faut aussi parler des quelques prélats minoritaires, mais qui à grand mérite et parfois à grand péril personnel ont pris la parole pour dénoncer cette barbarie. Je pense à la fameuse lettre pastorale de Monseigneur Saliège, l'archevêque de Toulouse, c'est votre ville, Patrick Cabanel, puisque vous enseignez à Toulouse, une lettre pastorale envoyée à tous les curés de son diocèse pour être lue sans commentaire, disait-il, le dimanche dans toutes les églises. Il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine qui impose des devoirs et reconnaît des droits. Ces devoirs et ces droits tiennent à la nature de l'homme. Ils viennent de Dieu, on peut les violer. Il n'est au pouvoir d'aucun mortel de les supprimer. Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères et des mères soient traités comme un vil troupeau, que les membres d'une même famille soient séparés les uns des autres et embarqués pour une destination inconnue, il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle. Pourquoi le droit d'asile dans nos églises n'existe-t-il plus ? Pourquoi sommes-nous des vaincus ? Dans notre diocèse, des scènes d'épouvante ont eu lieu dans les camps de Noé et de Ressé Bédou. Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères, comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier. Fin de citation.
Je considère que ce texte est vraiment capital, et pour trois raisons. C'est d'abord la première prise de parole publique qui dénonce les déportations, et il s'agit là des déportations d'août, à partir des camps dont on parlait à l'instant. Et c'est la première fois que le silence prend fin et qu'une voix s'élève publiquement dans chacune des églises du diocèse le dimanche avant la messe. Jusque-là, la France s'était quasiment tue. La seconde chose qui rend ce texte capital, c'est que c'est un prince de l'Église. C'est l'archevêque de Toulouse, il n'est pas encore cardinal, il le sera après la guerre. Et nous sommes dans une France qui est encore une France très profondément catholique et chrétienne, très différente de celle d'aujourd'hui. Nous sommes dans un régime qui a fait de l'Église catholique, régime de Vichy, son principal pilier. Il y a une sorte de connivence profonde entre les princes de l'Église et le régime de Vichy. Or là, c'est un prince de l'Église qui rompt avec cette connivence. Dans cette France catholique, il est plus audible que bien d'autres personnalités publiques. Et puis, troisième chose qui est propre à Saliège, qui par ailleurs était un homme, à titre personnel, c'était un handicapé, quelqu'un qui avait beaucoup de mal à s'exprimer. Je crois que ça se sent dans le texte que vous venez de lire. Il n'y a pas de phrase. Il ne fait pas du style à la littérature. C'est extrêmement simple. J'ai pu le dire ailleurs. C'est comme une rédaction au certificat d'études. Il écrit simplement « Les Juifs sont des hommes ». Les juifs sont des femmes. C'est pas leur théologie, hein. C'est pas un théologien qui parle. Et ça, c'est audible par l'ensemble des Français. Et je crois que ces trois phénomènes rassemblés ont fait de cette lettre pastorale de Saliège un coup de tonnerre dans le ciel, je dirais vichiste, de cette sorte de silence global sur la déportation. Et ce coup de tonnerre, tout le monde l'a entendu. Les chrétiens, de toute obédience, les juifs, qui ont su qui n'étaient pas seuls dans le malheur. C'est toute l'histoire de la reconnaissance aujourd'hui pour les justes. Hein, Saliège est juste, bien sûr. Et puis le régime de Vichy aussi l'a entendu et a su que la déportation, la collaboration à la Shoah ne serait peut-être pas aussi lisse et aussi facile que ça parce que il faudrait compter avec une opinion publique. Et même les dictatures savent qu'elles doivent parfois compter avec l'opinion publique. À cet égard, il y a un avant et un après la lettre de Saliège, d'autant que cette lettre de Saliège a été, si j'ose dire, répercutée, grossie son effet par d'autres lettres pastorales. Alors, vous l'avez dit, c'est une minorité, hein. Ils sont 5 à l'avoir fait.
Dont quatre sont justes aujourd'hui.
Voilà. Et ce n'est pas un hasard. Et notamment le cardinal, le primat des Gaules, Gerlier à Lyon, qui par ailleurs était pétainiste, hein. On peut être à la fois pétainiste et ne pas supporter, évidemment, ces scènes d'épouvante, comme dit Saliège, imposées aux Juifs. Et après ces 5 évêques qui ont parlé chacun dans leur diocèse, la Fédération protestante de France et l'Église réformée de France, par une déclaration écrite entre autres par le pasteur Bugner, a protesté à son tour. La différence, c'est que les protestants sont une minorité, mais que la lettre de l'Église réformée de France a été lue dans la totalité des temples de France, y compris dans les temples parisiens, dans toute la zone occupée.
Alors ça n'a pas été le cas du côté du catholicisme, où par exemple le cardinal archevêque de Paris s'est fait remarquer au contraire pour son silence, Monseigneur Suard.
Voilà, donc là...
Les évêques sont minoritaires, il faut tout de même le rappeler.
Ils sont 5 sur une totalité, et ceux qui ont parlé ne l'ont fait que dans le cadre diocésain. Les protestants l'ont fait dans le cadre national pour le coup.
Une autre grande figure, c'est celle de Monseigneur Théas, qui est l'évêque de Montauban. On est dans une région où il y a beaucoup de protestants.
Oui, mais Théas, c'est un proche de l'archevêque Saliège. Ils sont 3, hein, Albi, Montauban et Toulouse, à avoir parlé. C'est vrai aussi que c'est la zone où l'on trouve les grands camps d'internement de Vichy, hein, dans cette France du Sud-Ouest, entre Gurs, Rivesaltes, Brins dans le Tarn, Noé et le Récébidou qui sont aux portes de Toulouse. Hein. Il y a là une concentration, sans jouer sur les mots, du pire visage de Vichy, le visage concentrationnaire de Vichy.
Nous allons venir à certains lieux qui sont restés emblématiques de cette résistance et qui sont encore honorés aujourd'hui. Mais auparavant, je voudrais revenir sur votre propos concernant les frontières, la frontière espagnole et la frontière suisse. Les rapports avec la Suisse à cet égard sont intéressants parce que beaucoup de Juifs ont essayé de se réfugier en Suisse. Ils n'ont pas toujours été bien accueillis et tel ou tel épisode a attiré l'attention de l'opinion publique, en particulier de la radio de Vichy. Écoutez cette archive du 16 janvier 1942. Vous allez comprendre ce que je veux dire.
Avez-vous lu cette petite information perdue au bas d'une colonne de journal? 4 Juifs, pris soudain du désir de quitter la France, avaient demandé à un pêcheur français des bords du lac Léman de les conduire, moyennant finance, sur la rive suisse. Notre compatriote, M. Léon Moy, avait accepté. Le voyage se fit le soir et sans encombre. La barque atteignit la terre suisse. Or, dans l'obscurité, un douanier surgit, sommant les Juifs et leurs passeurs de regagner la France. Les 4 Juifs eux-mêmes eussent obéi. Mais M. Léon Moy ne l'entendit pas ainsi. Il se fit menaçant. Et devant le danger, le douanier suisse fit feu. M. Léon Moy a été tué. La première réflexion qui vient à l'esprit, c'est que les 4 Juifs, au prix de la mort d'un homme, sont tout de même entrés en Suisse. Et c'est au fond tout ce qu'ils voulaient. Nous pourrions dire que tout est donc pour le mieux, s'il n'y avait pas le cadavre de M. Moy. Et ce cadavre, c'est véritablement le cadavre inutile. C'est aussi le cadavre symbolique. Notre compatriote avait accepté de passer les 4 Juifs pour gagner sa vie. On ne saurait décemment lui reprocher d'avoir cédé à la tentation. Mais en prenant la défense des 4 Juifs contre le douanier suisse, M. Moy a fait, inconsciemment ou non, ce que tant de Français ont fait ou font encore, le jeu des Juifs. Les 4 indésirables sont sortis indemnes de l'aventure. Des millions de leurs coreligionnaires sont dans le même cas en ce qui concerne cette guerre, leur guerre. Cesserons-nous un jour de payer pour les Juifs ?
France Culture, Jean-Noël Jeannet, Concordance des temps.
Il m'a semblé, Patrick Cabanel, qu'au cœur de cette émission que nous consacrons aux justes en France entre 1940 et 1944, cette archive radiophonique du 16 janvier 1942 méritait d'être entendue, d'être écoutée en tout cas.
Oui, à l'appel de commentaires. Le premier, c'est que le journaliste met l'accent sur la culpabilité des Juifs. Alors qu'en l'occurrence, il y a eu, et ce malheureux français en est probablement le cas, il y a eu une industrie du passage. Les gens qui ont fait passer les Juifs en Suisse, certains l'ont fait de manière désintéressée, d'autres l'ont fait de manière profondamment intéressée.
Celui-ci en particulier, semble-t-il.
Il est possible que ce soit le cas de ce malheureux, je ne sais pas, mais on sait, c'est toujours l'histoire des passages, on sait qu'il y a des passeurs qui ont trahi leurs clients, qui les ont littéralement ruinés, qui les ont abandonnés.
Comme aujourd'hui sur la mer.
Absolument, c'est la même chose. Donc, de cet épisode dénoncer les Juifs, c'est typique de l'idéologie de Vichy, alors que il y avait des passages dans tous les sens effectivement entre la France et la Suisse. Je répète, ça allait depuis le passeur qui jouait double jeu et qui trahissait quelquefois ses clients, jusqu'à des passeurs qui ont été totalement désintéressés et qui ont pris des risques majeurs, simplement par sens de l'humanité, que ces passeurs aient été membres des organisations chrétiennes ou d'autres organisations. Et puis, il y avait aussi, évidemment, des passeurs juifs qui aidaient leurs propres coreligionnaires.
Les négociations avec l'Espagne d'un côté et la Suisse de l'autre ont par conséquent pris une assez grande importance dans cet effort pour sauver des Juifs et leur permettre de passer la frontière.
Pour la Suisse, c'est extrêmement précis. La Suisse a très vite compris qu'elle était la terre vers laquelle les Juifs souhaitaient venir, y compris les Juifs hollandais et belges, lorsque les déportations ont commencé dès juillet en Hollande et en Belgique.
Non, sans inquiétude, parfois parmi les Suisses.
Il y avait, parmi les Suisses, il y avait aussi de l'antisémitisme, et l'État était très inquiet. Il redoutait de passer aux yeux de son puissant voisin nazi comme le repère des Juifs. Et donc, début août, la Suisse a décidé de fermer ses frontières.
Plus une crainte de l'immigration.
L'immigration clandestine. Donc, tout était lié pour que la Suisse choisisse de fermer ses frontières. Elle l'a fait au mois d'août. Et c'était assez cruel. C'est-à-dire que lorsque les Juifs avaient réussi à passer la frontière et arriver en Suisse, s'ils se faisaient, c'était très souvent le cas, arrêtés par les douaniers ou les forces de l'ordre suisse, l'ordre était donné de les refouler.
Vous parlez d'août 1942.
Nous sommes en août 1942. De les renvoyer dans la zone occupée ou dans la zone non occupée, ou même de les remettre aux mains propres des gendarmes français.
C'est ce que nous dit cet épisode qui évoque l'archive que nous venons d'entendre.
Voilà. Il y avait donc un risque mortel pour les Juifs de se voir refoulés de ce qu'avait été pour eux l'espérance d'un refuge. La Suisse a choisi d'un peu assouplir ces conditions, mais assez peu. Et finalement, on parlait de filière à l'instant, à la fin de septembre 1942, le pasteur Bögner, dont j'ai prononcé le nom tout à l'heure...
Qui était le numéro un des églises réformées de France.
Voilà, c'était le patron.
L'incarnation et, aussi.
Voilà, un peu le nonce, si j'ose dire. Des protestants auprès de Vichy. Il avait des liens avec le régime de Vichy. Il était le représentant officiel et autorisé.
Il avait été membre du Conseil national.
Il était un membre actif du Conseil national de Vichy.
On connaît son état d'esprit par son journal qui a été publié par ses enfants, voilà. Le diplomate Jean-Marc Bögner, le journaliste Philippe Bögner.
C'est une édition qui n'est pas d'ailleurs tout à fait complète. Et certains passages non repris dans l'édition, je dirais, en ajoutent un peu sur la vraie connivence entre le pasteur Bögner et le régime. Mais ceci dit,
sûrement une réédition scientifique.
Il faut la souhaiter. Mais en septembre 42, Bögner a compris, c'est vraiment, les choses se sont éclairées, il a compris qu'il n'y avait plus de négociations possibles avec le régime de Vichy, que le régime de Vichy était prêt à livrer tous les Juifs qui pourraient arrêter aux nazis. Et donc il est allé négocier, non plus avec Vichy, mais avec Berne, il est allé négocier avec les autorités fédérales suisses, et il a passé un étrange contrat avec les Suisses. Ils ont décidé de mettre en place ce qu'ils ont appelé des liste de non-refoulables. C'est-à-dire que un certain nombre d'organisations françaises, dont la CIMAD, dont la Fédération protestante de France, mais d'autres aussi, faisaient des listes de Juifs dont ils souhaitaient que les Suisses ne les refoulent pas. Et il se portait garant à la fois des risques mortels pesant sur ces Juifs et, je dirais, de l'honnêteté, de la respectabilité de ces Juifs. Et Berne acceptait d'entériner ces listes, les remettait à l'ensemble de ces postes de douane, de façon à ce que lorsque les Juifs se présentent, ils soient reconnus comme ayant leur nom sur la liste et soient acceptés en Suisse.
Ce qui pose la question, en vérité dramatique, du tri. Oui. Imposé à ceux qui essaient de protéger ces Juifs. Ceux que l'on désigne comme devant être sauvés, et puis il y a les autres.
Il y a eu, mais à tous égards, il y a eu dans ces années 40 des formes de sélection de ceux qu'on estimait les plus menacés. J'ai donné tout à l'heure le chiffre qui prouve que l'on a mieux sauvé les enfants.
86%, disiez-vous.
Voilà. On les a mieux sauvés que les adultes, sans doute parce que c'est plus...
Contre 75.
C'est plus facile, c'est plus émouvant, je pense, de sauver des enfants hier comme aujourd'hui. Et par ailleurs, je pense qu'il y avait un projet chez des militants juifs de sauver l'avenir du peuple juif. Il y a eu aussi, il y avait des militants sionistes parmi ceux qui ont voulu sauver les Juifs. Il fallait sauver ce qu'allait devenir l'Israël de demain.
Une grande dame du Chambon-sur-Lignon, Patrick Cabanel, qui a été un des hauts lieux de l'effort collectif pour sauver les Juifs, et où les justes sont aujourd'hui nombreux, c'est au Chambon-sur-Lignon qu'a été active Madeleine Dreyfus. Extrait d'un très beau documentaire qui s'appelle « Les armes de l'esprit », un documentaire de Pierre Sauvage qui est sorti en 1989 et qui va être proposé dans une version remasterisée, comme on dit, très prochainement, un très beau film. Et c'est dans le cadre de ce documentaire que s'exprime Madeleine Dreyfus.
Les fermiers savaient que c'était des enfants juifs, mais on ne le leur disait pas. C'était une manière de les protéger que de ne pas leur dire « ce sont des enfants juifs ». Les petits se plaçaient plus facilement, parce que les petits c'est gentil, parce que les petits ça ne mange pas beaucoup, parce que les petits ça ne répond pas. Et on avait toujours beaucoup plus de mal à placer les grands. Et je me rappelle un couple âgé qui s'appelait Courtial, et il me restait sur les bras deux gosses de 14 ans. Et personne n'en voulait parce que c'est « Oh, ça répond, vous savez, Madame Dreyfus, non, c'est pas commode, ça mange, bon. » Et je me vois encore disant « Écoutez, Monsieur Courtial, la vérité, c'est que ce sont deux enfants juifs et qu'on recherche, et ça c'était la vérité, qu'on recherche leurs parents, etc. »« Oh, mais il fallait le dire plus tôt. » Alors bon, ils ont pris mes deux gosses.
Madame Dreyfus, vous avez conservé un document exceptionnel de cette époque.
Je dois dire ma grande honte. Vous parlez de ce carnet. Ce carnet que j'ai retrouvé après la guerre et ce carnet sur lequel je notais les choses. Je notais obligatoirement parce que ces gosses que je plaçais à droite et à gauche, je ne pouvais pas me rappeler tout. Il y avait ce que je devais apporter au prochain voyage. Linge, ticket de pain. Vous savez, ces fermiers nous demandaient des très petites sommes. 500 francs de pension pour un gosse, c'était bon marché. Ils n'en faisaient à coup sûr pas un bénéfice. Il y avait la liste des fermiers qui nous avaient demandé à prendre des enfants. Il y avait de quoi arrêter toute une population, hein. Voilà, les Marion à la Suchère, Véron à Romière, Brousset au Robert, Fournier à la Souche, Mandon à la Bourgeat, Héritier à la Fayolle, Agory à la Bâtie, à la Rionde, à Arcelet au Pin, à la Selle, à la Croisette.
Je crois que cette liste était bienvenue, Patrick Cabanel. On peut aussi renvoyer d'ailleurs au film célèbre de Claude Berry qui s'appelle « Le vieil homme et l'enfant » où vous vous rappelez, Michel Simon interprète un paysan qui découvre avec stupéfaction que le petit garçon qu'il a accueilli est juif et qui peu à peu développe évidemment pour lui une grande affection.
Il y a eu des enfants sauvés comme ça, je dirais, dans toute la France rurale. Là, on donne l'exemple célèbre du plateau du Chambon-sur-Lignon. Tout à l'heure, on a parlé de Chavannes-en-Paillé. Beaucoup d'enfants ont été placés. Et il y avait des filières qui partaient de Paris. Les parents avaient été déportés. Les enfants avaient été placés dans des orphelinats officiels de l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France. Et très vite, les Juifs ont compris que ces orphelinats allaient, là aussi, être des pièges et que les enfants seraient déportés. Et donc, se sont mis en place des convoyeurs. C'était des femmes, parce que ça passe mieux quand c'est une femme dans un train avec des enfants plutôt qu'un homme seul. Et ces convoyeuses qui étaient
à l'époque
catholiques, protestantes, etc.
À l'époque, mais aujourd'hui ça pourrait être tout naturel.
Voilà, mais à l'époque ça passait comme ça. Ces convoyeuses partaient en train avec les enfants, 2, 3, 4, 5 enfants. Ça pouvait partir depuis quasiment la grande banlieue parisienne, la Normandie, le centre, le Limousin, le sud-ouest. Là, avec Madeleine Dreyfus, c'est depuis Lyon que l'on va placer les gens. Et ces enfants étaient placés dans des familles d'accueil, essentiellement des paysans. Les enfants, ensuite, vivaient la vie entre guillemets, banales de leurs frères d'accueil, étaient scolarisés, alors soit dans des écoles catholiques quand on est dans la France cléricale de l'Ouest, soit dans des écoles laïques quand on est dans le Limousin, le plateau du Chambon-sur-Lignon ou le Sud, étaient présentés souvent comme des enfants mis à l'abri des bombardements ou de la malnutrition dans les grandes villes, et ont pu finir la guerre presque sans problème depuis 1942 jusqu'à la libération du territoire.
Vous évoquez le Limousin, il y a un très beau livre, un roman, un récit de Jean-Marie Borzex qui s'appelle « Jeudi Saint » qui évoque cet univers, ce qui nous conduit d'ailleurs à parler aussi du rôle des instituteurs, et en particulier des instituteurs laïcs, des hussards noirs de la République, comme vous disiez tout à l'heure, qui ont joué aussi un rôle notable. Il n'y a pas que les religions.
Il ne faut pas oublier que parmi les justes, il y a des dizaines d'enseignants, pas des universitaires, très peu de professeurs de l'enseignement secondaire, mais essentiellement des instituteurs et des institutrices, donc les hussards noirs, y compris pour des raisons très simples. Ce sont ces hussards noirs qui avaient à accueillir dans leur classe ces enfants, dont ils savaient qu'ils étaient juifs, et qui ont eu à ne pas les déclarer à leur administration. Dans le premier geste de sauvegarde d'un enfant juif, c'est de mentir à l'inspecteur qui demande que l'on déclare les enfants juifs. C'est ainsi que Serge Gainsbourg a été sauvé d'ailleurs, dans un certain nombre de ce qu'on appelait à l'époque l'enseignement primaire supérieur, qui était, je dirais, la quintessence de la méritocratie républicaine, les cours complémentaires, les écoles primaires supérieures. Là, on avait des établissements laïcs qui avaient des internats. Et dans ces internats, on a sauvé toute une série d'adolescents, garçons ou filles, dont Serge Gainsbourg, de la même manière que dans les internats des couvents et des écoles catholiques, on sauvait aussi au même moment d'autres adolescents et adolescentes juifs.
Avec parfois des moments dramatiques. Je songe par exemple à l'épisode évoqué dans le film de Louis Malle, Au revoir les enfants.
Oui, voilà. Dont le père Jacques, là, qui a été ensuite déclaré juste, là c'est un très bel exemple que Louis Malle avait connu comme élève, l'exemple relativement et heureusement assez rare d'un établissement de sauvetage qui a été repéré et dans lequel la rafle a accompli son action.
Je voudrais maintenant, Patrick Cabanel, que nous en venions à évoquer, pour clore cette émission sur les justes en France, la manière dont ils ont été progressivement reconnus dans la mémoire internationale et dans la mémoire française. Comment ont réagi un certain nombre de Français et de Françaises qui ont reçu la médaille des justes parmi les nations. Je vais vous faire entendre le témoignage d'Hélène Duc, une comédienne notoire. Son témoignage est diffusé sur France Inter le 24 novembre 2005. C'est au micro de Florence Paracuelos.
Je suis née à Bergerac, d'une famille protestante, très anciennement protestante. Donc la Bible n'avait que peu de secrets pour moi. Les Juifs, on ne savait pas que nous étions, on savait nous que nos ancêtres étaient les Gaulois et que pour la religion, c'était les Juifs. On connaissait toute l'histoire d'Israël très bien. Ça, c'est quand j'étais petite, puis adolescente. Et puis la guerre éclate. Moi, j'étais professeur au collège pendant un an. Et puis là-dessus, la directrice a dit, elle est quand même douée pour le théâtre, il faut qu'elle fasse du théâtre. Alors, je suis parti à Marseille. Et les acteurs avec lesquels je jouais à la Comédie en Provence, dans ces acteurs, il y avait beaucoup de Juifs. Il y avait Hélas 5 qu'on a tué, que les Allemands ont pris et ont tué, qui était Müller, un adorable garçon. Ensuite, un très vieil comédien qui était d'une très vieille famille de Carpentras, qui s'appelait Raymond Lyon, qu'ils ont pris aussi et tué. Et puis, heureusement, il y avait Robert Marcy. Et un jour, très inquiet, il vient me dire, écoute, ta maman est toujours à Bergerac, oui. Est-ce que tu crois qu'elle ne pourrait pas trouver un coin pour mes parents? Parce que mes parents, ma sœur et mon père et ma mère ont très peur parce que c'était le moment des dénonciations et n'étaient pas du tout sûrs de leur concierge, ni même peut-être de leur voisin. Alors j'ai dit ça à maman, naturellement, qui a trouvé au fin fond des bois, ça s'appelait Saint-Georges de Blancanet, une petite maison, tout ce qu'il fallait pour mettre dedans, et on a mis là les Marx, qui étaient les parents de Robert Marx, dit Robert Marcy.
Vous, votre mère, vous avez sauvé cette famille?
Oui, oui, sûrement. On peut dire, avant, protéger tout à fait cette famille, moi j'ai protégé tous les amis juifs que je pouvais. J'étais complètement entouré de ça. Je n'ai tué personne pour sauver la vie de quelqu'un, non. Mais j'ai fait tout ce que je pouvais pour sauver la vie de beaucoup.
Cette médaille que vous allez recevoir, vous la partagez avec votre mère, bien sûr, dans votre cœur?
Bien entendu. C'est surtout ma mère. C'est surtout ma mère. Moi, je n'ai fait que suivre le chemin qu'elle m'avait montré depuis que j'étais toute petite, sur les bancs de l'école du dimanche, au temple de Bergerac. Elle avait toujours été élevée dans cette idée-là. C'était un état d'esprit. Ma vie quotidienne a été, comment dire, s'est passée comme ça.
Est-ce qu'à l'époque, vous, votre mère, avez mesuré le risque que vous couriez?
Pas tout de suite. On savait que nos amis juifs risquaient. Voilà, ça on savait. Et tout.
Aujourd'hui, c'est pour finir, tout ça vous laisse quel goût?
La fierté d'avoir été du bon côté.
Elle était protestante, Patrick Cabanel.
Oui. Un mot statistique hein, sur les protestants. À l'époque, dans les années 1940, ils sont à peine 2% de la population française. Et aujourd'hui, dans les Juges de France, ils sont entre 10,5% et 11%. Donc il y a une surreprésentation des protestants. Et qu'elle explique très bien, Hélène Duc. C'est-à-dire que les protestants français, c'est d'abord une imprégnation biblique. Et au moins autant l'Ancien Testament que le Nouveau. Donc, entre les protestants et les juifs, il y a une culture partagée très forte hein, autour de l'Ancien Testament. Et puis, l'autre phénomène qui est sans doute encore plus important, c'est que les protestants, on le sait bien, ont été une minorité persécutée, et que lorsque la persécution frappe non plus eux, mais les juifs, ils ont le sentiment que l'histoire se répète. Au moment de l'affaire Dreyfus, ils ont eu le sentiment que c'était l'affaire Callas qui bégayait littéralement.
Ah, il y a une connivence, un rapprochement voilà. Très très marqué entre les protestants et les juifs français au moment de l'affaire Dreyfus, qui voilà. comptait beaucoup pour plusieurs générations.
Et même dans la mise en place de la République laïque, ils ont été, je dirais, ensemble dans les chantiers de mise en place de la République.
D'ailleurs, il y a des hauts lieux de la population protestante et statistiquement très importante qui ont été des hauts lieux de la protection des juifs persécutés. Je pense par exemple à Dieulefit dans la Drôme, ou au fameux village de Chambon-sur-Lignon, sur le plateau de la Haute-Loire.
Le Chambon-sur-Lignon fait d'ailleurs partie des deux seules personnes morales qui ont reçu la médaille des justes. La loi israélienne interdit de remettre une médaille des justes à une collectivité. Ce sont forcément des individus. Mais Israël a fait deux exceptions. Une communauté du reste protestante au nord de la Hollande, à Nieuwland, dont les leaders étaient des fils de pasteurs ou des pasteurs, et puis la communauté protestante du Chambon-sur-Lignon et des villages qui l'entourent. Hein. C'est pas seulement le village du Chambon, mais c'est l'ensemble du plateau. Vous venez de citer Dieulefit, qui est aussi donc une enclave protestante en partie dans la Drôme, où il y a eu aussi un phénomène, je dirais littéralement, de localisation de l'accueil et du sauvetage des Juifs. On pourrait citer un troisième espace, qui là est plutôt un espace marqué non pas par la concentration des sauveteurs, mais plutôt la dissémination dans l'abri un peu silencieux du paysage rural.
Voudriez-vous parler des Cévennes ?
Voilà, je voulais parler des Cévennes, mais on pourrait parler aussi de la montagne du Tarn. Et finalement, d'une certaine manière, ce phénomène de diffusion de sauvetage, je crois que c'est toute la France rurale qui est concernée, avec, c'est vrai, donc des phénomènes de densité plus grande. Je songe aussi au Poitou, au Dauphiné, à l'Ardèche. C'est vrai, des phénomènes de concentration plus forte, effectivement, dans ces zones protestantes, pour les raisons à la fois théologiques et historiques qui viennent d'être évoquées.
Cette France à dominante rurale s'éloigne un peu de nous et dans la mémoire de cette histoire, il faut faire un effort peut-être plus marqué que ce n'aurait été le cas il y a quelques dizaines d'années pour évoquer ce que fut l'ambiance, l'atmosphère de ces enfants en particulier sauvés. Les discours des politiques ont marqué cette évolution, je pense à ceux de François Mitterrand et de Jacques Chirac.
Le Chambon-sur-Lignon a très vite été célébré, notamment par les anciens juifs cachés, mais c'était resté comme une sorte d'exception. Et il a fallu attendre, évidemment, mais ça ne concerne pas seulement les juifs, il a fallu attendre la redécouverte par les juifs de France, par la France elle-même, à partir des années 70, 1970, pas avant. Il a fallu redécouvrir la réalité de la Shoah en France, la réalité de l'antisémitisme français, pour que on s'intéresse à nouveau à ce qu'ont été les déportations, à ce qu'ont été les gestes de lutte contre la déportation. Et à partir des années 1970, je crois que le phénomène a marché ensemble. On a redécouvert et donc la réalité de l'antisémitisme de Vichy, la réalité de la Shoah, mais aussi la réalité de ceux qui avaient fait ce qu'on appelle aujourd'hui, vous avez cité tout à l'heure Jacques Semelin, de la résistance civile, de la résistance spirituelle lorsque cette résistance civile est marquée par les religions. Et la France, et notamment lors des septennats de Jacques Chirac, la France a reconnu d'abord sa responsabilité propre dans la Shoah, c'est-à-dire que la fiction consistant à dire « la République n'est pas coupable de ce qu'a fait le régime de Vichy », cette fiction-là, 1995, Jacques Chirac y a mis fin.
Je pense qu'on peut discuter votre propos et que ce n'est pas une fiction, mais ça nous emmènerait un peu loin. C'est le gouvernement de Vichy qui est né sous la botte de l'ennemi, qui s'est comporté de façon infâme. La France, elle était aussi à Londres, mais ce débat peut-être...
Je suis d'accord avec vous, en même temps.
S'il avait dit le gouvernement de Vichy comme il l'a redit ensuite dans un discours attenant, chacun aurait pu agréer son propos. La France a commis l'irréparable. Bon, on a le droit d'avoir un peu de recul.
Alors, je suis d'accord avec vous, je préciserai simplement, le régime de Vichy a commis l'irréparable. Mais les gens qui ont servi le régime de Vichy, les gendarmes qui avaient été nommés, recrutés sous la République, les préfets républicains, ils ont servi la politique de déportation. Voilà. Ceci dit, le même Jacques Chirac, après avoir prononcé cette phrase sur la responsabilité historique assumée désormais par la France, a tenu en fin de mandat, d'abord en venant au Chambon-sous-Lignon et ensuite en 2007, il a tenu à faire entrer au Panthéon l'ensemble des justes français, et c'était reconnaître que la France des années 40, c'est à la fois la France de Vichy, c'est la France de Londres, et puis c'est aussi la France des justes, c'est-à-dire la France de ce semi-rural, la France, je le redis, des descendants de Huguenots persécutés, mais aussi la France des congrégations religieuses, la France des bouffeurs de curés, les hussards noirs, qui finalement se sont retrouvés pour sauver d'abord les enfants, mais aussi les adultes. Et donc voilà, la France des années 40, c'est la France de la face sombre, Vichy, les collaborateurs, l'antisémitisme vulgaire, et c'est aussi cette face lumineuse que Jacques Chirac a voulu célébrer en la faisant entrer au Panthéon. Et ce qui, dans ce geste d'entrer au Panthéon, est beau, c'est qu'il y a un côté anonyme. La plupart des justes, on a cité quelques cas, mais l'infinie majorité des justes français sont des gens totalement inconnus, qui n'ont fait dans leur vie qu'une chose, mais quelle chose ? Ils ont sauvé une nuit, une heure, pendant 2 ans, quand il a fallu élever des enfants, ils ont sauvé des juifs, mais ce n'est pas la France des élites habituelles. C'est la France, je dirais, on dirait aujourd'hui, des anonymes, et celle-là, elle est entrée au Panthéon pour son geste d'humanité.
Il me semble qu'il est essentiel aujourd'hui, quand la France se regarde elle-même, quand elle regarde son comportement à l'époque, il est essentiel que l'historiographie, les mémoires collectives aient progressivement fait prendre en compte toutes les ignominies, la dimension de l'antisémitisme, mais parallèlement, exactement parallèlement, que l'on voit aussi, que l'on ne tombe pas dans une repentance systématique et que l'on voit aussi tout ce qui s'est déployé de courage, d'énergie, souvent resté dans l'ombre et qui souvent n'a pas été éclairé. Je crois qu'il faut voir les deux aspects. Il n'y a pas seulement cette image un peu sinistre de tous les Parisiens se laissant aller à la délation par rapport aux Juifs cachés à côté. Ça a existé, mais à côté, que de courage, que d'énergie.
Absolument, et c'est l'occasion de rappeler, d'ailleurs, on a beaucoup insisté finalement sur la France du rural profond, mais il y a plusieurs centaines de justes à Paris. Il y a des concierges, il y a des commerçants qui ont sauvé des juifs dans Paris occupé, alors que s'il y a une ville où ça pouvait paraître très dangereux de sauver des juifs, c'est le cas de ces villes occupées. Donc la France des années 40, c'est à la fois la France de l'antisémitisme d'État, d'une forme aussi d'antisémitisme, je dirais, populaire, vulgaire, hein, on l'a très bien entendu d'ailleurs dans ces journalistes tout à l'heure, et c'est aussi la France de ces petits. Hein, je suis frappé par le fait que il y a de tout dans les juifs, il y a aussi des aristocrates, des châtelains, mais il y a souvent une France dont on parle très peu, des instituteurs, des paysans, des concierges, des domestiques,
ah oui, on dit
des
toujours
boulangers,
les pipelettes,
des bouchers.
On dit toujours que les pipelettes vont dénoncer les juifs au commissariat. Beaucoup, beaucoup ont été silencieuses.
Absolument, et beaucoup de concierges ont sauvé les juifs qui habitaient dans l'immeuble aussi.
Je suis satisfait, Patrick Cabanel, que vous nous ayez permis de considérer cette période avec équanimité. Je renvoie à votre beau livre qui s'appelle « Histoire des justes en France » qui est paru en 2012 aux éditions Armand Collin. Nous avons évoqué, nous avons célébré le livre important de Jacques Semelin qui s'appelle « Persécution et entraide dans la France occupée » qui est paru peu de temps après le vôtre. Comment 75% des juifs en France ont échappé à la mort. C'est un livre qui évoque beaucoup de cas particuliers en les rattachant à une réflexion d'ensemble, non ?
Oui, c'est ça. Des cas particuliers, des milieux aussi. Et puis c'est un livre de réflexion générale sur le sauvetage en général, y compris, donc j'y insiste, le sauvetage des juifs par les juifs eux-mêmes. Il ne faudrait pas trop accorder, avec tout le respect que l'on doit, il ne faudrait pas trop accorder aux non-juifs et aux justes. Il faudrait d'abord rappeler qu'à côté de ces quelques 4000 justes, les gens qui ont sauvé des juifs en France n'étaient pas 4000, mais sans doute 400 000. Hein. Un juste, derrière lui, il y a beaucoup de gens, des gens dont on ne saura jamais le nom, parce que pour être déclaré juste, il faut que les juifs sauvés aient connu le nom de leur sauveteur. Or, quand on a des enfants ou des nourrissons, ils ne peuvent pas témoigner. Et puis, à côté de cela, il y a aussi, évidemment, le travail considérable qu'on fait, moi je trouve ça admirable, des jeunes militants juifs pour sauver leur propre peuple.
Vous avez publié récemment le premier volume, avec André Encrevé, le premier volume d'un dictionnaire biographique des protestants français aux éditions de Paris en 2015. On ne peut pas dissimuler que vous avez un intérêt au moins historiographique pour la communauté huguenote en France, Patrick Cabanel.
Je renonce à le cacher.
Je vous rappelle que l'émission que vous venez d'entendre a été diffusée une première fois le 18 avril 2015. La semaine prochaine, en rediffusion toujours, une émission intitulée « Actualité de la comtesse de Ségur » avec Laurent Theis. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, une émission préparée par Jeanne Guéroux et Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Patrick Molinier, avec la prise de son Anthony Thomasson et Véronique de Saint-Pastou pour les Archivinas. Dans quelques instants, nous allons retrouver Aurélie Luneau.